Alors, je vous présente Philippe. Philippe, c'est le médecin qui travaille avec moi, c'est mon associé. Le Seigneur m'a permis de faire deux rencontres exceptionnelles dans ma vie. L'une, c'est mon épouse, et l'autre, c'est Philippe. Et c'est un peu... Bon, on a un contrat quand même de collaboration tous les deux, donc on a quand même signé un contrat, hein, et c'est un bon contrat. Oui. Voilà. Donc, je vous invite à écouter un homme de valeur, et pour ça, je vais prier. Seigneur notre Dieu, je voudrais te confier Philippe. Il est peu connu parmi nous, mais je sais que c'est une personne que tu aimes, une personne que tu as... à qui tu as donné des dons aussi de porter ta parole. Et je te prie pour que ces paroles soient représentatives de ce que tu veux que nous entendions. Je te remets aussi nos cœurs pour que tu les remplisses de ton esprit, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Amen.
Quand j'ai demandé à Jean-Pierre de me présenter, je pensais que ce serait plus simple, mais... Il y a le défi Miché et maintenant il y a le défi d'être à la hauteur de cette présentation, parce que je ne pense pas être exceptionnel, mais ce que j'aimerais c'est vraiment partager avec vous la parole, comme on l'a dit tout à l'heure, et le faire en, voilà, tout simplement, je suis brebis parmi des brebis, et c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé ces derniers jours, où j'ai eu la chance d'être en montagne, dans la nature, de pouvoir admirer... ce que Dieu fait, enfin a fait et continue de maintenir, puisqu'il se présente comme notre créateur. Et je ne sais pas si vous réalisez, enfin je pense que oui, vous le réalisez, mais est-ce que vraiment, jusqu'où on mesure la portée des paroles qu'on a chantées dans, par exemple, les premiers cantiques, « Je te bénis mon créateur ». Et le deuxième, c'était « Je connais le créateur du monde ». Enfin, « Je connais le créateur du monde ». Si vous sortez maintenant dans la rue et que vous allez le chanter, on va soit dire que vous êtes très prétentieux, soit que vous êtes peut-être un peu trop bu ou fumé, je ne sais pas, mais dire je connais le créateur du monde, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Pierre avait, vous le savez très bien, quand Pierre a répondu à Jésus qui posait cette question « Qui dites-vous que je suis ?» Il a répondu « Tu es le Fils du Dieu vivant. » C'était une révélation de la part du Père. C'est Jésus qui lui dit « C'est le Père qui te l'a révélé et tu es vraiment heureux de cela. » Ça lui a été confirmé lors de la transfiguration, puisque alors que Jésus apparaissait resplendissant avec Moïse et Élie, il y a eu cette voix qui s'est fait entendre après que Jésus reste finalement tout seul et qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Pierre le savait, n'est-ce pas ? Ça lui avait été révélé, Jésus est le fils de Dieu. Mais finalement, qu'est-ce que ça change ? Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça a changé pour Pierre ? Et pour nous, on le sait, d'accord, mais qu'est-ce que ça change dans notre vie ? On est capable de le chanter, on est capable de le dire, mais dans la pratique. Alors je vous propose de voir comment Jésus a aidé Pierre à passer de cette connaissance théorique à quelque chose de vraiment profond par une expérience pratique de cette réalité. Et nous verrons que ce n'est pas sans importance pour nous aujourd'hui qu'on peut vraiment s'inspirer de ce qu'il a vécu. Donc vous pouvez... ouvrir votre Bible en Matthieu 17, ou sinon écoutez, j'ai choisi la version Summer parce qu'il m'a semblé que c'était peut-être plus parlant. Donc c'est dans Matthieu 17 au verset 24. Donc c'est Jésus qui est avec ses disciples et ils se rendirent à Capernaum au verset 24. Là, les gens chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent « Est-ce que votre maître ne paie pas l'impôt du temple ?» « Mais si, répondit-il, il le paie. » Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre ? Les fils ou les étrangers ? Petit blanc, Pierre réfléchit, et puis il répond. Les étrangers, répondit Pierre. Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. À nouveau un petit blanc, Pierre réfléchit. Mince. Toutefois, verset 27, Jésus va le rassurer. Ne jetons pas ces gens dans le trouble. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent, prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Ça paraît anodin, cette petite histoire. Pour un pêcheur, c'était banal d'aller à la pêche, mais là, vous remarquerez que sa pêche n'est pas banale du tout. Et pour bien comprendre la question de Jésus, et il nous faut savoir quel était cet impôt, c'est ce qu'on va voir ensemble. Nous essaierons ensuite de discerner l'objectif de Jésus recherché en posant cette question à Pierre. Et puis nous verrons comment Pierre doit passer de la connaissance théorique à une découverte pratique. Et puis nous terminerons en essayant de voir ce que ça change pour nous, le fait que Jésus soit le Fils du Dieu vivant. Alors quel était cet impôt ? C'était un impôt qui était destiné à l'entretien du temple de Jérusalem. Je ne rentre pas dans le détail. Vous pouvez, ceux qui veulent le vérifier, parce que c'est bon de vérifier quand même ce que je dis, malgré ce que Jean-Pierre a dit auparavant, vous pouvez lire Exode 30, 11 à 16, 2 Chroniques 24, 5, 6 et Néhémie 10, 32, je vous le redonnerai si vous le souhaitez. C'est là où on voit que cet impôt était en fait annuel, qu'il était redevable par tous les hommes d'Israël âgés de plus de 20 ans, et il s'élevait à 2 drachmes, mais donc il le payait une fois par an. Étant donné que Jésus avait plus de 20 ans, eh bien il était a priori redevable de cet impôt, et les agents qui étaient chargés de le percevoir n'étaient pas les péagers, ce n'étaient pas les publicains, ceux qui eux travaillaient pour les Romains, c'était des Juifs qui travaillaient pour le temple. Donc Jésus, ayant plus de 30 ans, il était redevable de cet impôt, mais ses agents semblent émettre un doute sur la réalité du fait qu'il le paie. Et on a l'impression que Pierre, quand il est interrogé à ce sujet, il veut lever le doute et il répond fermement, mais si, il le paie. Et c'est difficile pour nous, c'est en fait impossible de savoir si Pierre savait que Jésus payait l'impôt parce qu'il l'avait vu faire, c'était la troisième année qu'ils étaient ensemble, ou si simplement, connaissant Jésus, qui était un homme pieux et droit, eh bien Jésus, c'était évident qu'il payait cet impôt. Enfin, ça, on n'a pas le détail. En tout cas, il n'y avait rien de mal dans sa réponse, puisque cet argent était destiné à honorer le roi spirituel d'Israël, n'est-ce pas ? Celui qui avait demandé qu'on construise une maison où on pourrait le rencontrer, une maison de prière. Cette maison devait être à Jérusalem, c'était le temple. Et donner de l'argent pour entretenir ce temple, c'était que louable pour un homme pieux. Et puis, voilà, donc, après avoir répondu à ces percepteurs, qui rentre à la maison, et avant même qu'il ouvre la bouche et qu'il parle de ce qui vient de se passer, Jésus l'interpelle et lui pose cette question : qu'en penses-tu, Simon ? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre ? Les fils ou les étrangers ? À votre avis, quel est l'objectif cherché par Jésus en posant cette question à Pierre ? Quel est son objectif ? Pourquoi il lui demande ça ? Pierre, vous n'avez pas de réponse ? On va essayer de voir ensemble. Pierre doit quand même se poser des questions, mais pourquoi il aborde ce sujet ? Je n'ai encore pas parlé, moi, des percepteurs de l'impôt pour le temple. Mais bon, il réfléchit, il dit, c'est évident, c'est logique. Les fils du roi, ils ne vont pas payer l'impôt, c'est pour eux, c'est pour leur famille. L'impôt qui est dû au roi, il n'y a que les gens du peuple, qui sont étrangers à la famille, qui le paient. Mais les gens de la famille ne le paient pas. Logique. Et Jésus reprit, les fils n'ont rien à payer. Or, qu'est-ce que tu viens de dire, Pierre ? que j'allais payer. Pierre doit être assez mal à l'aise quand même, parce que c'est comme s'il avait oublié ce qu'il avait affirmé avant, quand Jésus avait dit « Qui dites-vous que je suis ?» C'est un peu comme s'il avait oublié cette parole qui venait du ciel quand il a vu la transfiguration de Jésus. « Celui-ci est mon fils. » Ce n'est pas logique que Jésus paye, parce qu'il est vraiment fils de Dieu. Alors, si Jésus est fils de Dieu, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change qu'il ne paye pas l'impôt. Et la réponse de Pierre, si ça n'avait pas été que théorique, cette idée que Jésus est fils de Dieu, s'il avait vraiment intégré ce que ça veut dire, eh bien, en toute logique, il aurait dû dire, ben, pourquoi voulez-vous qu'il paye l'impôt? Il est le fils de Dieu. C'est pour lui l'argent qui va être donné pour le temple. Et j'aurais pas été à l'aise si j'avais été Pierre. Pendant ce petit moment de blanc que Jésus lui laisse pour réfléchir et répondre. Mais on voit la douceur de Jésus, hein, qui ne va pas le laisser être tourmenté trop longtemps et qui va lui donner une solution. Et il va lui dire, eh bien, on ne va pas créer du trouble pour ces gens. Hein, toutefois, au verset 27, toutefois, ne jetons pas ces gens dans le trouble où on ne va pas les scandaliser, ces percepteurs d'impôts. Parce que Jésus sait qu'ils ne vont pas comprendre. Si Jésus leur dit, écoutez, moi je suis fils de Dieu, je ne paye pas l'impôt pour le temple, parce que cet argent il est pour moi. Vous imaginez un peu les percepteurs, ils vont dire, attendez, ils cherchent un moyen de se défiler. Ils n'auraient pas accepté cette réponse. Et Jésus, le sachant, dit, on ne va pas les choquer. Parce que Jésus ne voulait pas être une pierre d'achoppement, il ne voulait pas être un frein à la foi. Et même ces percepteurs-là, il voulait les sauver, n'est-ce pas? Il voulait qu'ils croient. Donc, il va dire, on va payer Pierre. T'inquiète pas, on va payer. Je suis fils, mais je vais payer. Ça a dû rassurer Pierre dans un premier temps, mais pas très longtemps. Parce que regardez comment il va payer. Si on est dans une logique assez simple, on sait que Judas a la bourse, n'est-ce pas, pour subvenir aux frais de l'équipe. Donc, on va payer l'impôt, ça veut dire, bah, je vais demander à Judas de prendre 2 drachmes, mais il paye pour moi. Mais ce n'est pas ce que Jésus propose à Pierre. À Pierre, redisons ce qu'il lui dit. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Dans d'autres versions un peu plus précises, on a, en fait, tu trouveras un stater, et un stater, ça vaut 4 drachmes. Et 4 drachmes, c'est 2 fois l'impôt, pour Jésus et pour Pierre. Bon, on est d'accord, Pierre, c'est un pêcheur de poissons. Pas de problème pour lui pour aller à la pêche, il sait faire ça. On n'a pas le texte qui nous dit comment il s'y est pris, mais Matthieu, en ne nous donnant pas l'histoire, laisse entendre que Pierre y est allé à cette pêche. Il n'avait pas le choix. Il avait dit qu'il payerait. Il est bien obligé maintenant, parce que les percepteurs de l'impôt, ils l'attendent. Puisque Jésus va payer, ben on attend. Je ne sais pas s'ils sont très loin dans la rue, peut-être ils font encore le tour de pâté de maison, mais il faut bien quand même payer maintenant qu'il s'est engagé à payer. Et il n'a pas d'argent, Pierre. Si, donc on va essayer de le suivre. Si Jésus lui avait dit, écoute, tu va à la pêche, tu vas voir, tu vas pêcher beaucoup de poissons, tu les revends, et puis avec cet argent, tu payes l'impôt. Bon, c'est à peu près faisable, n'est-ce pas? On est tous prêts à faire ça. Mais franchement, aller pêcher un poisson dans lequel il y a un stataire, bon, nous on paye en ligne, lui il paye à la ligne, mais bon, c'est quand même un peu gros de faire ça, de demander ça à Pierre. Vous l'imaginez, c'était son pays, hein, Capernaum, c'est chez lui. Il va chercher sa canne à pêche, il faut qu'il prenne de l'appât, qu'il le mette sur l'hameçon, qu'il le jette, et il attend. Et il attend que ça morde. Pourquoi? Pour avoir le prix de l'impôt. Il me semble que ce que Jésus lui demande, c'est quand même... c'est quand même difficile à faire. Parce que ça lui demande de vraiment prendre au sérieux cette idée que Jésus est le Fils de Dieu. Ça lui demande de vraiment se dire, bon, Jésus veut payer quand même cet impôt, il aurait mieux fait de s'en dispenser. Il faut que je vienne à la pêche pour essayer de récupérer un statère. Mais une fois qu'il a accepté de le faire, une fois qu'il a obéi, une fois qu'il sent que sa mort, vous l'imaginez, sa mort, il monte son poisson, mais il ne sait pas encore. Ça, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Ça, il l'a toujours fait. Mais il faut qu'il aille ouvrir la bouche du poisson. Et là, il trouve la pièce. Et après, il faut qu'il l'apporte au percepteur. Imaginez la joie qu'il devait avoir. Il a pu donner cette pièce en... Lui, il savait exactement d'où elle venait. Il savait que c'était le Fils de Dieu, que c'était vraiment le Créateur qui lui avait donné cette pièce. Et quand il paye, il aurait pu dire à ses percepteurs, écoutez, c'est pas moi qui paye, c'est Jésus qui paye pour moi. Mais il leur a pas raconté toute l'histoire, comment il avait eu ce statère. Mais lui, il savait maintenant, de façon pratique, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, il est le Créateur. C'est étonnant comme ça change les choses quand on sait une chose qui est théorique et quand on la vit, n'est-ce pas? Si vous avez mal à la tête, le médecin vous prescrit un peu de paracétamol et vous avez un petit soulagement. S'il vous prescrit de l'Advil, vous êtes un peu mieux soulagé. Si le médecin vous l'avait expliqué, vous l'aurez peut-être cru, mais une fois que vous l'avez pris, vous le savez mieux, n'est-ce pas? Bon, excuse-moi Jean-Pierre pour... Il y aurait peut-être d'autres illustrations, et je suis sûr que vous en avez tous, des illustrations où vous saviez en théorie que Dieu pouvait intervenir dans telle situation. Mais quand vous l'avez vécu, l'image que vous aviez de Dieu a changé, n'est-ce pas? Une fois que vous avez expérimenté le secours de Dieu dans votre vie, tout est différent. Et c'est précisément là ce que Jésus voulait avec Pierre. Il voulait l'amener à expérimenter qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Créateur, qu'il est omnipuissant, enfin qu'il est omniscient, pardon, qu'il connaît toutes choses et qu'il est tout puissant. Jésus savait qu'il y avait là ce statère au fond de l'eau, mais il a eu la puissance de commander à ce poisson d'aller le chercher et d'être le premier à mordre. Enfin, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui n'est pas concevable. Si ce n'était pas écrit dans la Bible, on n'oserait pas raconter des histoires pareilles. Il fallait que Jésus soit réellement ce Dieu tout-puissant qui a créé tout ce qui existe pour que cela arrive. Alors qu'est-ce que ça change pour nous, le fait que Jésus soit le Fils du Dieu vivant? Eh bien, ça peut vraiment tout changer, mais à une condition. C'est que ça ne reste pas purement théorique. Si ça reste théorique, ça ne va rien changer. Pour que ça change, il nous faut vraiment accepter que Jésus nous interpelle. Il nous connaît parfaitement. Vous savez, vous vous souvenez, il a interpellé Pierre avant même que Pierre commence à parler de cette histoire d'impôt. Donc il le savait. Il était au courant de la discussion entre Pierre et les percepteurs. C'est identique pour nous. Il connaît nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux, nos défaillances, notre péché, ce qui nous tient esclaves, ce dont on voudrait être libéré, ce qui nous divise, ce qui nous unit, ce qui nous fait souffrir. En fait, il sait tout, il peut tout, mais il veut se révéler à nous, et pour ça, il faut qu'on soit prêt à lui obéir. Peut-être est-ce qu'on a une dette envers Dieu. Jésus est prêt à la payer pour nous. Peut-être on a besoin d'apprendre à pardonner. Il a la puissance de changer nos cœurs pour y parvenir. Peut-être qu'on a du mal à aimer. Il est amour, il est cette source qui peut attendrir nos cœurs et nous donner l'amour dont on a besoin. Alors ce matin, sur quel point est-ce que le Seigneur nous interpelle personnellement? Sur quel point Est-ce qu'il veut nous poser des questions pour nous amener à réfléchir à la réponse en considérant que lui, étant fils de Dieu, il peut vraiment nous aider. Que ce soit dans notre famille, hein, avec notre conjoint, nos enfants, nos parents, ou notre collègue de travail, notre chef, que ce soit à l'école. Bon, ils sont tous partis, non? Il y a peut-être des étudiants. Ah, ils sont là, pardon. Que ce soit voilà, avec les camarades ou un voisin. Qu'est-ce qu'on a lu dernièrement dans sa parole qui nous a interpellés? Quelle pensée on a eue en priant où Dieu nous a posé une question pour qu'on essaie d'y répondre, mais en tenant compte de qui il est? Et est-ce qu'on a accepté? Ou est-ce qu'on est prêt à accepter d'aller chercher notre canne à pêche, de monter la ligne, de mettre l'appât, de la jeter, d'attendre que ça morde et de ferrer? C'est vraiment une question d'obéissance. Et en général, Jésus se débrouille vraiment pour nous mettre dans des situations où c'est impossible de régler la situation par nous-mêmes. Sinon, on ne verrait pas sa puissance. Si c'est à notre portée, on sera très fiers de nous, mais pas de lui. Par contre, si c'est hors de portée, alors là, on découvre qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Là, on découvre qu'il est vivant. Et ça va nous demander d'aller à l'encontre de ce qu'on voit faire autour de nous, probablement. Parce que les percepteurs des impôts, eux, ils pensaient que Jésus allait payer. Hein, c'était logique. Pierre savait qu'il n'avait pas à payer. Mais il l'a quand même fait. Donc en conclusion, si nous voulons... Il nous faut croire concrètement que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est donc omniscient et omnipotent. Il nous faut accepter qu'il nous demande de lui obéir dans des situations qui nous dépassent, afin qu'il se révèle concrètement, personnellement. Et nous pouvons lui obéir avec confiance. Ce qui nous semble impossible deviendra possible, et du coup, nous allons apprendre à l'aimer davantage. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est que Pierre aimera davantage Jésus après cette expérience-là, parce qu'il a mieux compris qui il est. Je ne résiste pas à vous lire quand même ce passage, parce que le début a été lu pendant le culte de mon passage, là, et je terminerai avec ça. C'est dans les Colossiens, c'est Colossiens 1 à partir du verset 15, et des questions du Fils. Vous pouvez le chercher si vous voulez. Dans la version Sommer, c'est dit comme ça, c'est « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, et il est le premier de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux, comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né, comprenez, l'héritier. C'était le premier de la création, c'est aussi l'héritier, mais là c'est le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier rang. Il est le premier à être ressuscité. Et nous, on ressuscitera après avec lui. Verset 19, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. C'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Jésus est le Fils de Dieu réellement, c'est vrai, il est vivant, il veut nous le faire palper, toucher du doigt, expérimenter. Si nous n'avons pas encore fait la paix avec lui, il est grand temps. Il est grand temps parce qu'il revient. Il revient pourquoi ? Parce qu'il est toujours vivant. Et il revient pour chercher ceux qui ont cru en lui. Mais pour tous ceux qui ont fait cette expérience d'accepter de jeter la ligne, d'obéir dans le détail à Jésus, je crois que on pourrait poser la question, est-ce que quelqu'un a un regret ? Est-ce que quelqu'un a regretté d'aller au bord de la mer pour jeter sa ligne? Je ne crois pas. En tout cas, pas moi. Merci, en tout cas, pour l'occasion que vous m'avez donnée de partager la parole et J'espère ainsi qu'on sera encouragé à mieux le connaître.